Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux.
Bonjour Bruno Leroux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être dans ce studio de RTL ce matin. Le Canard Enchaîné révèle que Pénélope Fillon a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire, d'abord de son mari, puis du suppléant de son mari, François Fillon. En tout, sur 8 ans, elle a touché 500 000 euros. Il a confirmé, enfin il a fait confirmer par ses porte-parole. Comme vous le savez, il n'y a rien d'illégal à cela. À partir de là, il n'y a pas d'affaire.
En tout cas, quand il y a une accusation, il faut qu'il y ait des explications. Et donc, va-t-on se satisfaire de celles qui ont été données de façon, d'ailleurs, détournée ? Sur un cas comme ça, ce n'est pas au porte-parole de s'exprimer. C'est à celui qui est mis en cause de dire la réalité des choses. Et moi, je ne veux rien ajouter, puisque le temps doit être à l'explication sur quelque chose qui forcément apparaît très très grave aux Français s'il n'y avait pas la réalité d'un véritable travail.
C'est-à-dire que vous vous interrogez sur la réalité du travail, est-ce que c'est un emploi fictif ou non ? C'est ça la question qui est posée ?
Je ne m'interroge pas, je lis l'article de presse dont il est question
et
qui dit lui-même qu'il s'agit d'un emploi fictif. Et donc c'est maintenant une accusation grave, particulièrement grave, surtout quand on veut accéder à la plus haute fonction dans notre pays, dans notre République. Mmh. Et donc le temps n'est pas à une mise en cause supplémentaire sur laquelle je n'ai aucun élément. Le temps est à l'explication et François Fillon doit en donner de clair.
François Fillon doit s'expliquer. Vous avez été pendant des années président du groupe socialiste à l'Assemblée. Des parlementaires qui rémunèrent leurs conjoints, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y en a d'ailleurs au groupe...
Il y en a beaucoup et je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure qui est que cela ne devrait pas être autorisé. Parce que cela peut bien entendu prêter à confusion, cela peut prêter à suspicion. Je rappelle que les parlementaires rémunèrent leurs collaborateurs dans une enveloppe, donc ils ne peuvent pas dépasser cette enveloppe, mais c'est eux-mêmes qui fixent le montant des rémunérations à l'intérieur de cette enveloppe. Je sais que l'Assemblée nationale a fait d'ailleurs plusieurs fois passer un certain nombre de notes sur les dangers qu'il pouvait
donc,
y avoir.
Donc il faut interdire aux parlementaires d'employer leurs conjoints, en particulier...
Moi je ne suis pas, je n'ai pas
non,
édicté.
Mais c'est une proposition,
oui, mais
vous
je n'ai pas à édicter d'interdiction. Je sais que l'Assemblée nationale, et notamment Claude Bartolone, son président, a déjà fait passer, depuis le début de la législature, un certain nombre de messages sur les dangers qu'il pouvait y avoir.
Vraiment de couper.
S'il doit y avoir une interdiction, je laisserai au président de l'Assemblée nationale et aux structures de l'Assemblée nationale.
Mais
je pense que c'est plus clair. C'est plus clair qu'il n'y ait pas de conjoint qui travaille avec les députés.
Une attachée parlementaire peut ne jamais mettre les pieds à l'Assemblée nationale et rester dans sa circonscription. Vous avez croisé, vous, Pénélope Fillon, à l'Assemblée nationale en tant qu'attachée?
Non, mais je n'ai jamais été véritablement au même étage que François Fillon. Vous savez, la distribution des bureaux se fait par étage.
Enfin, ça circule beaucoup quand même.
Oui, mais je ne veux pas. Et si je l'avais rencontré, j'aurais rencontré qui? La femme du Premier ministre, sa collaboratrice. Je ne sais pas quel statut j'aurais pu lui donner. Donc ce n'est pas à moi d'aller plus loin, ni dans la mise en cause, ni dans l'explication. C'est à François Fillon de dire les choses maintenant.
Qui s'est posé en chantre de l'exemplarité pendant la campagne? Ces révélations peuvent changer la donne, à votre avis, corner son image?
L'exemplarité, il faut la voir à la lumière des actes. Et je note simplement que depuis 5 ans, le président de la République, lui, a été à l'abri de toute polémique de cette sorte.
L'image du Parti Socialiste sort, elle, très abîmée du premier tour de la primaire de gauche. Cafouillage, tripatouillage, amateurisme, par souci d'afficher un bon score de participation. Vous regrettez ce qui s'est passé?
Je regrette le débat. J'observe qu'il n'y a pas de débat sur ces chiffres. J'observe qu'il n'y a pas de contestation des candidats sur la sincérité du scrutin. Mais j'en tire une leçon. C'est que quand on rend compte d'un scrutin, il faut le faire avec des totalisations et pas des projections. Les projections, c'est quand l'on est avant. Quand l'on espère, quand l'on décompte, on doit être sur des totalisations, même si elles sont partielles, plutôt que des projections.
Qu'est-ce que vous conseillez pour dimanche prochain ? Il faut absolument éviter que se reproduise ce cafouillage jette une ombre quand même.
Pour dimanche prochain, Elisabeth Martichoux, je préconise la participation maximum, c'est-à-dire que ce soit les électeurs qui assurent
la réalité. Non, mais moi je
ne
vous parle pas de la participation, c'est l'utilisation des chiffres, en tout cas la publication des chiffres de la participation qui a posé problème.
Mais la publication, je viens à une nouvelle fois de vous le dire, il faut faire des totalisations. Moi j'ai une confiance totale dans les militants, les électeurs qui vont se mobiliser dimanche pour tenir les bureaux. droit de vote. Ils vont le faire avec grand professionnalisme. Et donc, il faut que nous fassions honneur à ce qu'ils nous donnent comme temps, à ce qu'ils nous donnent comme énergie. Et la meilleure façon de leur rendre cela, c'est d'avoir une clarté dans l'expression et donc d'annoncer des totalisations et pas des projections.
Voilà, c'est ce que vous demandez aux organisateurs de la primaire rue de Solferino.
C'est ce qu'ils vont faire, bien entendu.
C'est à eux de, effectivement, mieux s'organiser. Est-ce que l'élection présidentielle de mai prochain que vous allez organiser au ministère de l'Intérieur sera quand même un petit peu, justement, mieux organisée que la primaire de gauche, on l'espère?
Ah, en tout cas, je mets, mais Bernard Cazeneuve l'avait fait avant moi, toutes les énergies qu'il faut en œuvre pour garantir la sincérité, la bonne organisation du scrutin, et en même temps le fait qu'il se tienne dans les meilleures conditions de sécurité, parce que ma responsabilité n'est pas simplement la tenue du vote les quatre fois où il va falloir voter pour les législatives et les présidentielles. C'est de faire en sorte que le débat se tienne, voilà, se tienne dans les meilleures conditions de sécurité, je m'y attelle chaque jour.
En attendant, vous soutenez toujours Manuel Valls, vous voterez pour lui dimanche sans hésiter.
Mais absolument sans hésitation.
Pas du bout des lèvres comme certains de vos collègues.
Non, pas du bout des lèvres. Je l'ai soutenu au premier tour, je le soutiendrai au second tour, parce que la seule question que je me poserai dimanche, c'est quel est le candidat capable d'être présent dans l'élection présidentielle, de rassembler une gauche qui est encore beaucoup trop éparpillée, et d'avoir ensuite la capacité à être président de la République. Moi, je ne pars jamais battu d'avance. Le candidat...
Benoît Hamon n'est pas capable, n'a pas la capacité d'être président de la République.
Je ne crois toujours pas que Benoît Hamon soit véritablement candidat à l'élection présidentielle. Il incarne un courant d'idées au sein du Parti Socialiste, qui est un courant de congrès. Là, nous sommes sur un vote pour l'élection présidentielle. Il faut une force pour l'élection présidentielle. Il faut une expérience. Il faut une volonté, tout simplement, d'être au pouvoir et de prendre ses responsabilités.
Le frondeur Hamon n'a pas cette volonté de gouverner. Il a la volonté de quoi ? De gouverner le PS ? Mais il n'a pas cette capacité de gouverner.
Lorsque je regarde ceux qui ont voté au premier tour pour Benoît Hamon, je m'aperçois d'une chose, mais ouais, plus nombreux que Manuel Valls, mais une partie de ceux qui ont voté Benoît Hamon ne viendront pas voter pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Ils voteront pour d'autres candidats. Ils le disent eux-mêmes, ils sont venus voter Benoît Hamon.
Vous leur dites, vous votez pour rien.
Non, je ne dis pas vous votez pour rien. Je dis que l'électorat, et comprenons-nous bien, je dis qu'au premier tour de cette primaire, un certain nombre d'électeurs de Benoît Hamon ne voteront pas pour lui au premier tour de la présidentielle. Ils sont venus voter à la primaire pour être sur une candidature qui leur apparaissait, celle de la gauche résistante, celle de la gauche qui est plus sur les valeurs que sur l'implication dans le quotidien,
irréaliste,
dans la réforme.
La gauche irréaliste.
Mais vous employez des mots que je n'emploie pas.
Les mots de Manuel Valls, lundi matin.
Mais laissez-moi les mots qui sont les miens. Moi, je veux une gauche qui se confronte à la réalité, une gauche qui soit dans l'histoire et dans la filiation de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Lionel Jospin, de François Hollande. Et dans cette filiation de gauche qui prend ses responsabilités, qui prépare l'avenir, je mets aujourd'hui Manuel Valls comme le successeur de ceux dont je viens de citer le nom.
Il a raison d'être à l'attaque, Manuel Valls. Justement, lundi matin, il a commencé son offensive, il la poursuit jour après jour. Il accuse Hamon d'ambiguïté, par exemple, sur la laïcité.
Oh, il y a des propos qui peuvent être ambigus, ils s'en expliqueront dans le débat qu'ils vont avoir chacun ce soir, mais il a raison, bien entendu, Manuel Valls, d'être offensif.
Il a raison, sur l'ambiguïté, sur la laïcité, sur est-ce qu'il y a effectivement une tentation d'être indulgent avec l'islamisme
de
Benoît Hamon.
Que le débat fasse la lumière sur tout cela. Il y a peut-être des conceptions différentes. Ce n'est pas à moi de me mettre à l'intérieur et en juge dans ce débat. Par contre, ce soir, je pense qu'ils s'en expliqueront
chacun. Vous le regarderez,
le débat ? Je suis dans une réunion, mais je le regarderai, je l'écouterai.
Pas sûr que vous le regarderez.
Mais vous savez,
Elisabeth
Artichaud, vous pouvez comprendre que le ministre de l'Intérieur peut avoir aussi quelques autres sujets d'actualité.
Et on va y venir. Il sera violent ? En un mot ?
Le débat ? Oui. Mais il n'a pas à être violent. Il faut qu'il soit clair et qu'il réponde à la seule question. Qui de ces deux candidats est capable demain d'être le prochain président de la République ? Pour ma part, je n'ai pas de doute.
Vous êtes ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Le Parisien révèle ce matin que 15 000 à 16 000 personnes sont enregistrées dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, FSPRT. Vous confirmez ? Et ces personnes, elles, c'est quoi ? Ce sont des islamistes radicaux ?
Non, ce sont...
15 000
Le FSPRT est un fichier de signalement qui nous permet d'assurer un suivi. Il y a là-dedans des signalements que l'on appelle actifs, des signalements qui sont en vérification, d'autres qui sont en sommeil.
Sur 15 000, combien sont vraiment taxés de dangerosité ?
Non, là, vous ne me trouverez pas, parce que la radicalisation ne correspond pas à une case dans laquelle on peut enfermer quelqu'un. C'est quelque chose de compliqué, sur lequel il faut un suivi régulier. Ce fichier montre que nous nous sommes dotés d'un outil qui nous permet de suivre par des remontées de terrain très précises, département par département, que nous permet de suivre les personnes qui apparaissent à leur entourage ou qui sont signalées comme étant radicalisées.
Monsieur le ministre, combien d'attentats ont été évités depuis le début de l'année, si c'est le cas ?
Il y a tous les jours ce que je peux appeler des levées de doute et qui permettent à nos services de renseignement de procéder à des vérifications. La situation est tendue, vous le savez très bien, et la menace est toujours très très forte. Elle n'a pas baissé malgré les reculs de Daesh sur le terrain. Et il y a toujours une forte menace. Tous les jours, nos services s'emploient à lever les doutes et à faire en sorte d'éviter
donc pas
de nouveaux
précise.
Attentats. Non, nous y travaillons chaque jour et chaque nuit.
Merci beaucoup Bruno Leroux d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Le ministre de l'Intérieur qui estime que c'est à François Fillon désormais de donner des explications sur le travail de son épouse, qui renouvelle son soutien à Manuel Valls et qui confirme en tout cas le chiffre de 15 à 16 000 islamistes radicaux perçus et aujourd'hui écoutés comme un fichier de personnes à surveiller.
RTL dans 3 minutes 8h, Yves Calvi.
L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.